Podcast RTBF Sport. Complètement foot. Complètement foot. Spécial Jupiler Pro League.
Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche. On ne traîne pas, on est en direct jusqu'à 23h. Il y a pas mal de choses à vous dire. Évidemment, léger décalage horaire aujourd'hui pour vous permettre de suivre ces derniers matchs du week-end en Pro League, en direct et en intégralité. Clément Tamon est notre consultant. Salut Clément.
Salut David, bonsoir à toutes et à tous.
En vacances ?
Pas encore, bientôt.
Encore. Fin de phase classique de Challenger Pro League. On va en parler dans un instant. Votre club des Framborins. Donc la saison n'est pas encore tout à fait terminée, c'est ça ? Vous êtes au club jusqu'à quelle date précisément ?
31 mai.
D'accord.
Voir un petit peu moins si on nous accorde quelques jours
de congé supplémentaire.
De congé, mais c'est déjà pas mal.
Puisque vous ne jouez pas les promotion playoffs et vous êtes sauvé donc dans cette Challenger Pro League en division 1B. C'est la première fois et c'est avec beaucoup de plaisir que je lui dis bonsoir qui nous rejoint en vrai, en live dans notre studio. Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport. Salut Alex.
Bonsoir David, c'est un grand plaisir d'être là et c'est vrai que voilà, j'attendais ce moment parce qu'il est quand même plus agréable d'être face à face que derrière un petit écran. Donc
c'est vrai qu'on s'habitue aux visioconférences hein, depuis évidemment le Covid entre autres. Ça nous permet nous ici en radio et en émission de multiplier les différentes personnalités dans l'émission. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa. Moi, je trouve quand j'ai un troisième à nos côtés, hein, Clem, oui. dans ce studio. Comment se passe votre première saison de consultant, mon cher Alexandre?
Ben, j'espère qu'elle se passe bien, que je ne dis pas trop de bêtises et que l'audience est satisfaite. Non, mais plus sérieusement, je pense que depuis le début et depuis la demande qui avait été faite, l'objectif était surtout d'essayer d'avoir un rôle pédagogique et constructif pour essayer d'expliquer les situations, toujours en les argumentant sur base des lois du jeu, pour mieux les faire connaître. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu encore cette semaine, notamment en Europa League, on va avoir l'occasion d'en reparler pour encore faire découvrir certaines règles, hein, parce que oui, que soit les joueurs ne connaissent pas et que donc le grand public encore moins. Donc voilà, maintenant je suis très content d'être ici parmi vous physiquement parce que c'est vrai que j'avais toujours cette petite sensation d'être à l'aise dans mes soirées du lundi à la tribune, mais de pas avoir le même sentiment.
Non, je vous confirme, vous étiez très à l'aise pour nous, pas de soucis.
Bon,
je confirme, c'est pas évident à distance l'exercice des visioconférences. Moi, je trouve ça sympa parce que le dimanche, je le répète, ça permet à toute l'équipe avec Déborah, avec Eline aujourd'hui et Lola, girl power en coulisses de Complètement Foot ce soir, mais ça nous permet de multiplier les intervenants dans l'émission. Mais je peux comprendre qu'évidemment, 10 minutes comme ça en visioconférence, c'est pas la même chose que de passer du temps en studio. Je ne dévoile rien en disant que vous avez assisté à un événement très important pour la Wallonie cet après-midi.
Ah bah j'étais presque sur la ligne d'arrivée de la doyenne, mais bon, je dois dire que ça va tellement vite que c'est un long déplacement pour peu de spectacles, d'autant plus que bon, le vainqueur s'était échappé une bonne trentaine de kilomètres de l'arrivée, donc j'ai pu faire un selfie furtif avec Pogacar qui passait dans mon dos.
Est-ce que vous avez fait des selfies avec les différents supporters et suiveurs de Pro League, parce que vous disiez c'est eux qui vous jugent en fait maintenant en vous écoutant en tant que consultant. On vient vous voir comme ça, tout près de la ligne d'arrivée, demander votre avis sur une des phases du week-end, parce que je trouve aussi que vous avez très bien choisi votre week-end pour venir en studio avec nous, puisqu'on reviendra évidemment sur les Champions Playoffs, sur ce qui s'est passé hier, le bras de Sardella, aujourd'hui le dégagement d'Anthony Morris. Là, on a déjà deux beaux cas d'école à réexpliquer ou à expliquer tout simplement. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les supporters, les suiveurs de la Pro League, quand ils viennent vous voir comme ça, près de la ligne de Liège-Bastogne-Liège?
Écoutez, pour ne pas vous mentir, j'ai garé ma voiture d'un côté de la Meuse, j'ai passé le pont. Et à peine
vous avez mis 3 heures pour arriver
près de la ligne, on m'a apostrophé en me disant « Ah ben, je suis bien curieux de ce que vous allez raconter demain sur le penalty d'Anderlecht. » J'ai dit « Vous ne devrez pas attendre demain, je vous dis rien maintenant, écoutez la radio ce soir.
» Très bien, Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport, qui est donc présent ce soir. Il y aura également Peter-Jan Kalkun qui sera là en visioconférence, Christine Schreder qui était à votre place dimanche dernier parce qu'elle aussi de temps en temps, elle se fait un petit plaisir de nous rejoindre en studio, mais ce sera à nouveau en visioconférence tout à l'heure. Évidemment, évidemment, dans les prochaines minutes, on va vous parler de ces Champions Playoffs, de ces Europe Playoffs, de ces Playdowns, les premières réactions, analyses, interviews après les matchs de ce dimanche. Et on reviendra aussi, évidemment, sur tous les matchs de ce week-end avec différentes phases à analyser. Mais je voulais faire comme la semaine dernière parce qu'on a quand même eu une belle semaine européenne une nouvelle fois avec des matchs retour d'un niveau en Ligue des Champions une nouvelle fois exceptionnel avec quelques discussions arbitrage par-ci, par-là. Il n'y a pas de raison, hein, en Ligue des Champions, en Pro League, parfois les mêmes combats. Et évidemment, je cache rarement que je suis un tout petit peu supporter du Barça parce que du sang catalan dans mes veines. Voilà, c'est comme ça, on ne se contrôle pas. On parle souvent du PSG avec Clément Tamon, qui est le plus français de nos consultants belges et le plus belge de nos consultants. N'est-ce pas, Clément? Barça-PSG, score final 1-4, qualification pour les Parisiens pour la suite de cette compétition. Votre avis sur cette rencontre? Il n'y a pas de piège. J'ai pas invité Alexandre Boucaud pour nous expliquer qu'il y avait pénalty sur Gundogan. Ça, je l'ai fait moi-même sans problème avec tous les supporters des catalans. Mais donc, Clément, votre avis sur ce match?
Non, écoute, une très belle entame du Barça avec une ouverture du score. Et puis, on s'est dit à ce moment-là, je pense que la plupart des amoureux du football se sont dit que le Barça avait fait le boulot et que ça serait très dur pour le Paris Saint-Germain de revenir. Et puis il y a cette faute d'Araujo qui permet aux Parisiens d'un peu de relancer leur match et puis de faire basculer la rencontre avec des faits de jeu forcément, mais aussi après c'était beaucoup plus facile de trouver des solutions. Et je pense qu'ils l'ont bien fait aussi parce que le Barça a chuté dans sa performance collective. Et voilà, après le Paris Saint-Germain a cette qualité, je pense, offensivement pour faire la différence. Et c'est sûr que c'est une belle performance.
Et alors, c'est la difficulté du studio de Complètement Foot, c'est qu'on peut continuer à suivre. Ça se passe comme ça en télé aussi, il y a un petit écran discrètement pour suivre. Il y a moins de matchs le lundi soir, donc c'est plus simple, hein, Alex, on est d'accord.
On ne voit que nous.
Donc, évidemment, Real Madrid, FC Barcelone en cours, un pénalty sifflé pour les Madrilènes. Je vais demander l'avis de notre arbitre dans un instant. Vinicius convertit celui-ci, c'est un but partout au bout de 17 minutes de jeu. Un petit mot quand même sur l'élimination de l'Atleti face au Borussia Dortmund. Vous avez jeté un petit coup d'œil aussi sur ce match. Clément, surpris quand même par ce match retour du Borussia Dortmund ou pas? Ou surpris l'Atlético Madrid qui est en train de tout perdre, hein, battu aussi aujourd'hui en championnat au Deportivo Alavés 2-0.
Surpris oui et non, parce que je pense que Dortmund fait une très belle Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier qu'ils sont sortis premiers de leur groupe, avec le Paris Saint-Germain dedans, avec un groupe difficile. Et ils en sont sortis vaillamment, avec beaucoup de qualité. Et ici, sur cette rencontre aller à l'Atleti, ils sont restés vivants grâce au but de Sébastien Haller. Et au match retour, ils avaient fait le job en menant 2-0. Ils se sont fait rejoindre de partout. Et ils ont eu ce regain de caractère et de qualité aussi pour faire la différence. Et puis, je pense, pour justement se qualifier. Maintenant, ils vont retrouver une fois de plus le Paris Saint-Germain en demi. Ça sera très intéressant de voir comment ils ont su aussi progresser dans leur performance pour affronter le Paris Saint-Germain.
On est confiant du côté français, hein, sur ce tirage déjà. Je pense qu'on peut dire ça comme ça.
Oui, parce que...
Peut-être pas du côté du PSG, je veux dire des
suiveurs
et des journalistes.
On est confiant surtout sur le chemin à suivre pour aller jusqu'en finale. C'était plutôt le chemin le plus facile.
Exact.
Tous les cadors sont de l'autre côté. Et on se dit forcément que c'est peut-être l'année ou jamais pour aller en finale. Mais ça sera pas si facile que ça parce que, je me répète, Dortmund est une équipe très, très valeureuse avec beaucoup de qualité.
Clément Tamon, notre consultant Complètement Foot. On fait quelle phase dans l'ordre, Alexandre Boucaud? J'ai un arbitre à ma disposition. Mon rêve se réalise. Alex, on va revenir sur ce match de mardi en Ligue des Champions dans un instant. Mais donc là, le Real Madrid, il y a un instant, une faute sur Vasquez qui fait le dribble, la jambe tendue du défenseur. Est-ce que il y a pénalty?
Jambe tendue du défenseur. Voilà. Vasquez joue bien le coup. C'est pénalty. Zéro discussion.
Clément Tamon,
pas mieux. Hein.
Rien à dire, pas mieux. Bah, donc voilà,
avantage
les
arbitrage.
Supporters catalans passent une formidable semaine au niveau de l'arbitrage parce que l'arbitre roumain, monsieur Kovacs, a été décrié du côté barcelonais, entre autres par Javier Hernandez en conférence de presse alors qu'il s'était promis de ne plus jamais rien dire concernant les arbitres. Votre avis, votre analyse, Alexandre Boucaud, sur les trois phases dont on a beaucoup parlé, l'exclusion d'Araujo, le penalty sur Dembélé et puis discussion comprends pas, y avait-il pénalty sur Gundogan dans cette rencontre? Votre avis sur ces trois phases arbitrage?
Je crois que la phase qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la première avec l'exclusion, mais je crois qu'à partir du moment où l'attaquant a pris le défenseur de vitesse et va rentrer dans la surface, se présenter seul devant le gardien, s'il est touché, bousculé, qu'il tombe, l'arbitre a peu d'alternatives autres que de siffler la faute. Malheureusement, à partir du moment où il siffle cette faute, il y a à nouveau plus aucune alternative que de donner la carte rouge. Et je rappellerai que la faute se passe à l'extérieur ou dans le rectangle. La faute qu'il commet, étant donné que c'est une poussée, il n'essaye pas de jouer le ballon, donc ça reste, même si c'était dans le rectangle, ça reste la double sanction, pénalty rouge. Donc voilà, je crois que sur cette phase...
Il n'y a pas eu pénalty sur cette phase.
Elle était limite. Ouais. Mais bon, soit on ne va pas discuter du penalty, mais voilà, la faute et la rouge sont pour moi correctes, et il n'y a pas de, ça suscite le débat.
Faute sur Dembélé aussi, le penalty
sur Dembélé, il est clair et net. Et puis sur Gundogan, là, j'ai plus l'impression que c'est Gundogan qui va provoquer le contact, parce que finalement le défenseur est très prudent dans sa course, donc il reste derrière et Gundogan va d'abord toucher avec son pied droit le genou du défenseur, sans que le défenseur ne fasse quoi que ce soit dans le duel, et va toucher le pied ensuite du défenseur également, qui fait bien le geste de se retenir et de se retirer. Donc sur cette phase-là, je crois que la bonne décision, c'était de finir la phase, et le ballon est sorti, je crois, en coup de pied de but, et on a repris par coup de pied de but, et il n'y avait pas lieu de donner un pénalty. Alors évidemment, quand vous avez cet enchaînement qui est contre vous, ben, ça peut être frustrant, ça peut faire beaucoup, mais il faut aussi savoir que pour l'arbitre, ça fait beaucoup de situations aussi extrêmement complexe à juger. Donc voilà, je pense que j'ai pas un avis globalement catalan sur la prestation de Monsieur Kovac.
C'est pour ça que vous êtes là. Et objectif, Alexandre Boucaud, notre arbitre complètement foot. Je l'ai dit, moi j'ai pas eu un avis objectif sur ce match, donc je ne vais pas me prononcer. Je pense que vous avez compris. Le lendemain, qualif du Bayern Munich, Arsenal décidément qui n'y arrive pas. Clément Tamon. Et puis ce match au bout du suspense entre Manchester City et le Real Madrid, et cette séance de tirs au but qui qualifie les Madrilènes, là aussi pour la suite de la compétition. Votre avis sur ces deux rencontres?
Moi, pour celle de City face au Real Madrid, je pense que, on va pas dire que la meilleure équipe l'a emporté, puisque City était au-dessus, je pense, surtout dans la proposition de jeu, la recherche de solutions, mais ils sont confrontés à un mur madrilène. C'était très compliqué de trouver finalement des situations qui auraient pu aboutir à des situations franches de but, parce que le Real Madrid est sorti un peu de son ADN où il faut proposer aussi du jeu et d'être costaud. C'est aussi la force d'Ancelotti et des joueurs et du collectif madrilène, c'est de pouvoir faire le dos rond et d'être très costaud. Ils l'ont été tout le long de la rencontre sans jamais faillir. Une grosse force collective qui leur a permis de se qualifier. Pour Arsenal, c'est vrai qu'ils ont pas encore une fois de plus réussi à franchir l'obstacle. Parce que aussi, ils se sont rendus la tâche difficile au match aller. Je pense que c'était la grosse contre-performance finalement, même si c'est le Bayern en face, ils auraient dû l'emporter à domicile. Et le Bayern, après, ça reste quand même une très très grosse pointure européenne qui a l'habitude de ses expériences et de cette pression de match, et ils ont réussi à faire la différence. Donc finalement, bon, ça reste évidemment dommageable pour Arsenal, parce que ils sont sur une grosse dynamique, pardon, depuis au moins 2 ans avec Arteta. Et on aurait pensé qu'ils auraient pu franchir l'obstacle, mais c'est pas encore le cas, parce qu'en face, il y a encore une fois de plus de l'expérience qui permet de faire la différence.
Vivement ces demi-finales de la Ligue des Champions, pas, selon les points de vue, évidemment. La soirée du jeudi, c'est celle que vous avez suivie en direct sur la RTBF, évidemment, en Europa, en Conférence League. On va surtout parler de la Conférence League. Dans un instant, on va reparler du club de Bruges avec vous, Clément. Mais un petit mot sur ce match qui a aussi beaucoup, beaucoup fait parler, sur cette séance de tir au but à l'issue de Lille à Aston Villa, avec Emiliano Martinez qui prend un carton jaune de plein jeu. Et puis à cette séance de tir au but, on connaît évidemment le show du gardien argentin dans ses séances de tir au but, prend un deuxième carton jaune. L'incompréhension totale pour la plupart d'entre nous, d'entre eux, les joueurs eux-mêmes. Yuri Tillemans au micro de Benjamin Dessenec l'a reconnu. Il n'a pas été exclu, parce que, Alex, il faut rappeler un des points importants du règlement.
Ouais, dans la loi du jeu qui traite des tirs au but, il est bien précisé que les avertissements reçus pendant la rencontre sont supprimés pour la séance de tirs au but. Ça veut dire que les deux équipes, les joueurs des deux équipes repartent avec, entre guillemets, un casier vierge. Au moment de la, au début de la séance des tirs au but, les joueurs des deux équipes repartent avec un casier vierge au niveau des cartons jaunes. Et donc, pour être exclu, il faudrait prendre deux jaunes pendant la séance. C'est donc, voilà, Martinez a pris un jaune pendant la séance et à ce moment-là, il était considéré comme n'en ayant pas encore reçu au préalable, ou en tout cas, la première reçue de plein jeu ne comptait pas pour être additionné à celui-là et valoir une exclusion. Donc voilà, et il y a plein de choses intéressantes dans la loi sur les tirs au but, plein de petites choses, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, si une équipe, par exemple, termine le match à 10 et l'autre à 11, eh bien, il faut aller dire au coach de l'équipe à 11 de enlever un de ses joueurs. Parce que deux équipes doivent démarrer la séance de tirs au but avec un même nombre de joueurs. Voilà, c'est des petites choses qu'on voit pas, et il faudrait évidemment, pour s'en rendre compte, qu'on ait une série complète où les cinq joueurs sont passés, on refait jouer et tirer tous les autres. Mais ce sont toutes des petites choses importantes.
Martinez qui en plus sera suspendu quand même pour la suite de la compétition, ouais, pour abus de carton jaune, ouais. Clément.
Ouais, mais moi c'est une situation qui m'échappe ici. Parce qu'au final, en plus on connaît le personnage, il a été extrêmement influent sur cette séance de tir au but. Et finalement, ça lui...
Parlez de la finale de Coupe du Monde, là, ou... Pardon.
Allez, Clem. Allez, je la sentais venir. Mais finalement, ça lui laisse quand même, vu que Alex nous dit que son casier devient vierge à la séance de tir au but, ça lui laisse l'opportunité de pouvoir influencer la séance de tir au but au moins une fois, en prenant finalement qu'une carte jaune. Et je trouve, ouais, je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça très correct. Et finalement, très peu de personnes étaient au courant de cette loi. Même les joueurs pensaient qu'il allait être expulsé. Mmh. Moi-même, j'étais en train de suivre la série de tirs au but. Je me suis dit, bon, c'est bon, il va être expulsé. Au final, il a joué de main de maître cette séance de tirs au but. Il a vraiment fortement influencé, ce qui lui a permis aussi de faire pencher la rencontre et surtout cette séance de tirs au but en faveur d'Aston Villa.
Vous savez que les faits de match importants font parfois évoluer quand même les... Enfin non, je vous pose la question différemment, Alex. Est-ce qu'un fait de match aussi important de ce qui s'est passé, on connaît l'historique de ce gardien en particulier, il y a eu évidemment cette finale de Coupe du Monde face à la France, est-ce qu'un tel fait de match, alors qu'on voit une grosse occasion pour le Barça de nouveau sur un corner, est-ce que le ballon avait franchi complètement la ligne? Je pense qu'on ne le saura jamais parce que les angles de la caméra vont pas le permettre de nous donner le bon angle. Donc, pardon, est-ce qu'un fait de match aussi important, c'est ce qui s'est passé, une loi du jeu que tout le monde a oublié, mais forcément on ressort le petit carnet, on dit ben non, on est reparti à zéro, est-ce qu'elle pourrait évoluer dans le futur? Vous avez entendu l'avis d'un joueur ou d'un ancien joueur, d'un joueur, Clément, qui dit ben ça me choque. Est-ce que ce genre de phase pourrait faire évoluer la loi du jeu concernant ces cartons jaunes pour le gardien? Parce que, pardon, je complète, excusez-moi, c'est un peu long, Alex, on attire beaucoup, beaucoup l'attention, et Monsieur Kovacs l'a fait aussi en match de Ligue des Champions, sur le comportement du gardien dans cette séance de tir au but ou le pénalty. Donc, est-ce que, selon vous, ça pourrait évoluer? Justement, le fait que ces cartons jaunes, un seul carton jaune dans une séance de tir au but n'aura aucune influence.
L'IFAB et le comité de l'IFAB tient en effet compte de tout ce genre de situation, de toutes ces situations pour faire évoluer les règles. Mais cette règle-là, en particulier, a été ajoutée il n'y a pas si longtemps. Donc, à mon avis...
Parce que ça ne favorise pas de contrôler le bon comportement du gardien, on est d'accord.
Non, et ça vise principalement les gardiens, parce qu'il y a très peu de joueurs de champ. Ouais. Les joueurs de champ viennent tirer leurs pénaux, et finalement, ils sont beaucoup moins concernés, et beaucoup moins au centre des intérêts et de l'attention que les gardiens. Donc, ça vise principalement les gardiens. Mais ce que vous dites est tout à fait correct, et notamment, il y a eu un gros changement... Mais on attend encore de pouvoir se rendre compte parce qu'on n'a pas encore eu de situation réelle pour en juger. Mais il y a eu une grosse évolution de la règle du hors-jeu l'an dernier, enfin oui, il y a même 2 ans maintenant, suite au goal en Nations League, à la finale en Nations League, et le goal de Mbappé contre l'Espagne.
Contre l'Espagne.
Où on a jugé en position hors-jeu, on a jugé qu'il n'était pas hors-jeu parce que le ballon venait d'un tacle manqué d'un défenseur espagnol. Où maintenant, on demande que dans ce genre de situation, le tacle soit réellement ou le ballon soit vraiment donné de manière délibérée et de manière contrôlée, ce qui n'était pas le cas ce jour-là. Donc voilà, il peut y avoir des situations qui suscitent beaucoup de réactions et qui causent à terme une adaptation des règles.
Alexandre Boucault, notre arbitre RTBF Sport, et merci de rester stoïque. Et c'est plus compliqué que sur un terrain, je parie, Alex, parce qu'évidemment, en suivant ce classico, aussi une demi-heure de jeu, Real Madrid, FC Barcelone, c'est toujours un but partout, vérification longue du VAR, mais donc qui a confirmé qu'il n'y avait pas de but et que ce ballon n'avait pas franchi complètement la ligne. Donc, ça va être une soirée compliquée pour l'arbitre, hein, je pense, et il y aura pas mal de choses qui vont encore se passer sûrement dans ce match, des matchs toujours le plus important en championnat d'Espagne et aussi donc dans le monde. Clément Amon, notre consultant complètement foot, concernant jeudi, qualification historique du club de Bruges. On s'attendait à un chaudron grec pour le PAOK, ce ne fut pas le cas. Et quelle maîtrise des Brugeois, votre avis sur ce match et cette qualification pour les demi-finales de Conference League?
Ben c'est fabuleux, hein, pour la Belgique et puis pour le coefficient. Ils ont égalé le record de l'année passée qui était déjà assez impressionnant. Ça permet encore de l'égaler ici. J'espère en tout cas que ça va le dépasser en demi-finale et qu'il sache faire une belle performance face à la Fiorentina. Mais en tout cas, Bruges a parfaitement maîtrisé déjà sa rencontre aller et encore plus sa rencontre retour dans un contexte qu'on a pensé défavorable. Au niveau en termes d'environnement et de pression, ils ont joué ça de main de maître avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de bouteilles. Et puis, ils sont dans une grosse dynamique. Hein. Ils sont dans une grande dynamique depuis l'arrivée de Nicky Hayen. Donc, je pense que c'est logiquement mérité cette qualification. Et on espère tous maintenant qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout.
Clément Amon sur cette qualification à l'issue du match où pratiquement Bart Verhaegh du côté du club de Bruges voilà, prie de tous les dieux du foot pour qu'on adapte le calendrier de la Pro League en fonction justement de cette qualification pour les demi-finales. Ça a inspiré à l'équipe et merci à Déborah Orlet qui a bossé sur cette question complètement foot cette semaine. Faut-il adapter le calendrier pour aider le club de Bruges justement à aller le plus loin possible en Coupe d'Europe? On vous a posé cette question dès vendredi matin. Votre avis sur la question avant de jeter un petit coup d'œil aussi avec Alexandre Boucault, parce que les arbitres sont concernés évidemment par la planification de ces matchs, sur le calendrier justement de ces playoffs, sans oublier la finale de la Coupe. Et donc ces deux matchs, aller-retour, demi-finale de Conference League face à la Fiorentina. Faut-il adapter, là maintenant, entre guillemets, en dernière minute, ce calendrier pour le club de Bruges, Clément?
Moi, je veux aller dans le sens de la commission du calendrier, on va dire, c'est de ne pas changer en tout cas les dates. Je pense plutôt qu'il est favorable de changer les horaires, parce qu'on a vu, en tout cas j'ai regardé que le club de Bruges allait jouer des rencontres à 13h30. Je pense qu'il serait préférable de les faire jouer le soir. Et on en a discuté tout à l'heure en off, il y a peut-être un match qui par contre pourrait être déplacé du dimanche au lundi, en tout cas pour le club de Bruges, ce qui serait plutôt judicieux. Mais je ne vois pas d'explication au fait de leur changer le calendrier. Il y a une jurisprudence avec, je pense, donc l'Union l'année passée. On n'a pas changé leur calendrier alors qu'ils étaient aussi en plein play-off. Je ne vois pas pourquoi il faudrait le faire pour le club de Bruges. On a discuté aussi tout à l'heure du fait que le club de Bruges aimerait aussi peut-être se destituer des play-offs. Mettre moins de matchs.
Donc on rappelle qu'il y a quelques semaines, Bart Verhaegh, entre autres, du côté du club de Bruges, avait organisé avec le G5 ou les clubs les plus importants, le Sporting de Charleroi, ceci dit, avait été invité également pour une discussion, une nouvelle discussion, une énième discussion sur une réforme de la réforme. Et clairement, du côté du club de Bruges, on n'est pas du tout pour les playoffs et donc on trouve qu'on joue trop de matchs. Ce que Bart Verhaegh a évidemment réexpliqué ici en disant que ça ne favorisait pas les desseins de son club pour aller loin. Et d'ailleurs, il a dit tout le monde pourrait en bénéficier, tous les clubs pourraient bénéficier évidemment d'un bon parcours en Coupe d'Europe si on fait jouer moins de matchs au club belge. Et il a pris le contre-exemple parfait de Salonique qui, lui, avait pas joué en championnat le week-end qui a précédé ce match retour.
Oui, mais ce n'est pas non plus la même formule de championnat. Ici, ils sont dans une situation de play-off. Qui joue des play-offs dans les autres championnats européens? À ma connaissance, c'est peut-être les seuls, ou alors peut-être un pays nordique. Mais je pense que c'est les seuls, en tout cas sur cette compétition et sur ce moment de compétition, ce sont les seuls.
Clément, il faut le prévoir à l'avance ou impossible de toute façon?
Ça
a été la réponse du responsable du calendrier. L'embouteillage des matchs fait que ce n'est pas possible de toute façon de déplacer une rencontre.
En tout cas, il va falloir y penser, je pense, à l'avance sur les saisons qui vont venir, puisque l'on voit que de plus en plus les équipes belges vont de plus en plus loin.
En Conference League, entre autres.
En Conference League, entre autres, parce que effectivement, c'est une, je pense, une compétition qui est à leur portée et qui va permettre aux clubs belges d'aller le plus loin possible. Donc, c'est fort probable que la situation se représente à l'avenir.
Petit rappel, on va pas faire trop long là-dessus, ma faute, je voulais absolument l'évoquer à votre compagnie. Journée 6 des playoffs, dimanche 28 avril, Genk Club de Bruges à 13h30. Vous notez que Cercle de Bruges-Anderlecht à 16h, Union Antwerp à 18h30, se joueront les mêmes jours. Le 2 mai, il y a la manche aller donc de cette demi-finale de Conference League pour la Fiorentina. Quelques jours plus tard, le 7 mai, quelques jours plus tard, commence la 7e journée de play-off avec un déplacement pour le Club de Bruges à l'Antwerp. Ça se joue le 5 mai et on le sait, la demi-finale retour a été avancée au 8 mai, donc face à la Fiorentina. N'oublions pas que la finale de Coupe de Belgique se joue le 9 mai, le jeudi de l'Ascension. Et donc, on verra évidemment pour la suite de cette compétition. Et pour la finale, moi, ma seule interrogation, et je n'ai pas de réponse à cela, j'ai essayé de trouver les infos, je n'ai pas obtenu de réponse, c'est pourquoi ne pas avancer le match du Club de Bruges qui était prévu le 28 avril, Genk Club de Bruges, d'un jour, et le faire jouer le 27 avril. Peut-être qu'il y a un problème d'organisation, on le sait, collaboration entre les villes, les bourgmestres et les polices locales à chaque fois, qui complique évidemment, forcément, de manière logique, le calendrier. Donc pourquoi ne pas avancer ce match-là d'une journée? Et si on prend le problème dans l'autre sens, sont concernés l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise aussi de cette finale de Coupe de Belgique, parce que eux, de toute façon, c'est prévu comme ça. Eux, ils n'auront pas ces journées en plus pour pouvoir jouer cette finale de coupe. Est-ce que la disponibilité des arbitres, Alexandre Boucaud, peut avoir une influence dans l'établissement du calendrier? Comment ça se passe exactement? Par exemple, pour
non,
les Champions,
je pense que c'est le dernier souci du manager du calendrier. Je pense que les arbitres sont tenu et censé être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je pense que ça c'est vraiment pas un paramètre contraignant.
Parce qu'on dit parfois qu'on n'a pas assez d'arbitres entre guillemets pour ces playoffs. Le fait que justement on pourrait déplacer une journée pourrait libérer un trio d'arbitres. Non, c'est pas aussi simple que ça, Alex.
Non, mais on a de toute façon, je dirais pour les play-offs 1, on a 3 matchs par journée avec environ, selon moi, 9-10 arbitres capables d'arbitrer. Donc il y a moyen de faire une tournante. Et on sait que même si au niveau VAR, on doit être trop court, ce qui peut arriver, notamment quand on joue tous les matchs de la dernière journée de phase classique à la même heure, etc. Bah, dans ces cas-là, comme ça arrivait, je crois, encore cette saison, on fait appel à une équipe ou deux de VAR hollandais ou autre pour avoir un peu de soutien au niveau du nombre. Donc, l'arbitrage n'est pas ne fait pas partie de l'équation.
C'est complètement foot avec Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport, donc il passe la soirée avec nous. Un petit mot de la Challenger Pro League, phase classique terminée, ouais. Le Berscott champion, Dender donc deuxième montant. C'était les deux équipes les plus fortes de cette division 1B, Clément, selon vous?
Pour le Berscott, oui, c'était l'équipe la plus costaud et qui a montré beaucoup plus de qualité que les autres. Ils ont maîtrisé la plupart du temps leur sujet et ont été très dominants. Même si c'est pas un grand champion, c'est je crois que ça finit à
56 points.
56 points, donc c'est pas non plus une moyenne impressionnante. Globalement, la Challenger Pro League de cette année était à un niveau moyen. De mon expérience terrain, je parle, et de ce que j'ai pu vivre dans la Challenger Pro League des années précédentes et des saisons précédentes. Et pour ce qui est de Dender, finalement, c'est peut-être sur la deuxième partie de saison l'équipe la plus régulière, qui avait déjà des qualités certaines et qui a su les maintenir et augmenter son niveau de performance, hors objectif je pense, mais bravo à Timmy Simmons qui est le coach de cette équipe. Et aussi parce que certaines cylindrées de très gros budgets comme Zulte Waregem ou Beveren notamment n'ont pas réussi à tenir la dragée et en tout cas d'être performants dans cette division, ce qui va les obliger à aller dans ces playoffs pour monter. Et ça sera facile.
Promotion playoff, donc vous suivez toujours. Deins, Lommel, Zult, Waregem, Le Patro, SDN, de ces quatre-là, parce qu'il y aura aussi donc forcément le barragiste de Division 1A qui va les affronter. Votre avis, qui est l'équipe la plus forte et susceptible peut-être de poser problème aux barragistes de Division 1A, Clément? C'est la boule de cristal, c'est le foot fiction comme chaque dimanche.
Ouais, si je m'en tiens à la dynamique récente, j'ai envie de penser que Deins va sortir gagnante. Zult, on peut se dire que logiquement serait favori, mais ils vont devoir jouer Le Patro, qui est un redoutable adversaire, qui est très costaud. C'est difficile de les jouer. Et Deins termine troisième de la division, est passé à peu de choses de la montée, et je pense qu'ils sont sur des niveaux de performance supérieurs.
Clément Tamon, notre consultant, donc complètement foot ce soir, joueur des Framborins. Et ils se sont sauvés, les Framborins. Bravo à Pascal Chimay, qui a passé 15 ans à mes côtés le dimanche soir, donc le nouveau CEO du club, qui a réussi à maintenir donc ce club dans cette montée en Challenger Pro League. Et bon vent pour la suite. Par contre, Serein et les U23 du Standard, on en avait parlé, mais Serein, donc il fait un culbut en National 1. Ouais. Voilà, dans cette nouvelle nationale francophone, on aura l'occasion, j'en suis sûr, d'en reparler un dimanche, mais bizarre de retrouver Serein aussi bas, évidemment.
Ouais, ils prennent un gros coup, hein, pour, comme tu dis, les clubs, en tout cas francophones, mais Serein, deux descentes de suite.
Oui.
Mais en toute sincérité, le travail n'a pas été de rigueur ni assez qualitatif. Voilà. Je pense qu'il y avait beaucoup de failles dans le collectif de Serein, Serezien. Et je pense. Logique, je ne vais pas dire logiquement, mais voilà, encore une fois de plus, sincèrement, malheureusement, ils allaient figurer dans le bas de classement. Et c'est malheureux pour eux, mais il va falloir se relever de ça. Et espérons qu'ils puissent reconstruire autrement, parce que j'ai appris aussi que Metz va peut-être se destituer de ce club, donc ça sera différent. Mais espérons que ça amène une autre dynamique.
C'est complètement foot. On était un peu long sur le débriefing de la semaine, mais il s'est passé tellement de choses importantes, et je voulais évidemment aussi profiter de la présence d'Alexandre Boucaud pour lui faire parler de différentes phases qui ont émaillé cette semaine. Et on vous a gardé le meilleur pour le week-end. Alexandre, ne vous inquiétez pas, on va parler des Pro League dans un instant, des Champions Playoffs, des Europe Playoffs et des Playdowns, donc dans la suite de ce complètement foot. Bientôt la mi-temps dans le Classico, 42 minutes de jeu entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Toujours donc un but partout dans les autres. Autre rencontre, vous notez qu'à Monza, Atalanta, c'est 0-1. Charles de Ketelaere, titulaire et buteur une nouvelle fois dans cette rencontre, alors que c'est 4-1 dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour le Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais. À tout de suite.
Complètement foot. Spécial Jupiler Pro League.
Nous entrons donc dans le vif du sujet du débriefing de ces matchs de ce week-end en Pro League, entre autres en Champions Playoff. Il y a quelques minutes, cette rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. En un seul mot, complètement foot, ce match, score final 1-2. Pour vous, c'était Clément Tamon?
Au mental. Au mental, parce que...
C'est deux mots, ça.
Ouais, mais bon, allez, vas-y, c'est bon. Hein. Écoute, je vais pas dire mental. Mentalité.
Pourquoi?
Mentalité. Allez, mentalité.
Pourquoi?
Bah, parce que, on le sait, l'Union est... dans une mauvaise passe. Une mauvaise passe, dans une un aspect psychologique et mental difficile dans la gestion de ces playoffs, et en tout cas des quatre premières rencontres, on voit qu'ils sont dans le dur et qu'ils n'arrivent pas encore à prendre le dessus. Je pense que c'était mieux, je pense que même c'était la meilleure de leurs quatre rencontres en termes de disposition et d'envie et de proposition. Ils ont décidé enfin d'aller chercher l'adversaire, de mettre du tempo, de mettre du rythme, de l'intensité dans tout ce qui est pressing. Mais ils ont encore un peu, une fois de plus, flanché sur certaines situations. Et Bruges a été maître de certaines émotions et de certains faits de jeu qui leur a permis de l'emporter. C'est pour ça que je parle de mentalité, parce que même à 10, ils n'ont pas été capables non plus de renverser Bruges. Alors que je pense, dans la saison régulière, ils auraient été capables de le faire. Mais ici, ils sont un peu moins capables. Ils ont peut-être un peu moins les jambes, un peu moins de dash, d'énergie. Et c'est ce qui fait qu'ils sont bousculés hein, dans ces playoffs. C'est, qui l'aurait cru?
Plus que bousculés. Hein. Ouais, 0 sur 12, 4 matchs, 4 défaites.
On avait fait un pronostic. On aurait imaginé une compétition un peu à deux équipes avec donc l'Union et Anderlecht. Finalement, on voit que tout s'est resserré, il y a énormément de pression, c'est ce qui fait aussi la beauté des playoffs, malgré, encore une fois de plus, la division des points qui peut être préjudiciable pour ces équipes-là de tête. Mais voilà, sur la rencontre, Bruges a maîtrisé. Il y a des joueurs majeurs à Bruges qui retrouvent des couleurs et qui mettent du tempo dans la rencontre, qui savent aussi des fois annihiler ou neutraliser les difficultés adverses, comme Van Aken qui revient très bien dans ses playoffs et qui est vraiment le maître en la matière en termes de tempo et de pour casser les intentions adverses. A contrario, on a des joueurs clés en face à l'Union qui flanchent et sur chaque ligne, on parle d'Anthony Morris, on peut parler aussi de Burgess. Puertas, même si aujourd'hui il marque un but, est un peu moins performant, un peu moins tranchant. Et puis devant, Amoura qui n'arrive plus à faire la différence, ou en tout cas avoir le dernier geste juste. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, la balance penche un peu plus du côté de Bruges ce soir. Et l'Union, encore une fois, est en difficulté et c'est difficile. Hein. Parce que quand tu as les intentions et que tu as cette volonté de. Tu sens que peut-être c'est le jour où tu vas faire la différence comme tu as su le faire dans la saison régulière et que tu n'arrives pas encore une fois de plus à le faire, c'est un coup dur derrière la tête et il va falloir se relever et trouver pour Blessing des arguments des éléments qui leur permettra d'être costaud à l'Antwerp.
On va d'abord s'intéresser en effet à l'Union Saint-Gilloise. On reparlera du club de Bruges dans la deuxième partie de Complètement Foot, entre autres avec Peter-Yann Kalkoun, journaliste de Newsblad, qui suit de près le club, qui a fait le déplacement d'ailleurs jeudi. Avant de forcer Alexandre Boucou à jouer notre petit jeu du Anselmo, première réaction interview, celle de Cameron Puertas à l'issue de ce match. On l'écoute au micro de Manuel Jousse. L'Union Saint-Gilloise, donc 0 sur 12, battu aujourd'hui par le club de Bruges 1-2. On l'écoute.
Une défaite, ça fait toujours mal. Après, c'est vrai, après 3 défaites et encore plus à domicile, en plus, je pense qu'on fait un très bon match. Donc ouais, c'est vrai que ça fait très mal. Après, voilà, faut pas baisser la tête. Faut essayer de se relever le plus vite possible. On a remis tout le monde dans la course, donc maintenant, c'est à nous d'assumer, essayer de prendre ces 3 points le plus vite possible et essayer de continuer à croire au titre. Sur l'ensemble du match, mis à part ce fait de jeu là, cette erreur, je pense que voilà, ça a été l'union de la phase classique sur le terrain aujourd'hui. Faut essayer de regarder les petits détails pour faire moins d'erreurs dans ce genre de match.
Alors le paradoxe, c'est que dans les chiffres, il y a rien de catastrophique. Vous êtes toujours à 3 points du leader, mais vous faites 0 sur 12. Donc comment est-ce qu'on doit voir ça en fait?
Si on regarde sur ce côté-là, c'est vrai que c'est pas catastrophique. Mais après, quand on voit les points qu'on a perdus, et si on avait pris tous ces points aujourd'hui, on serait pas là en train de pleurer, on serait là en train de faire la fête. Mais ça fait partie du foot.
Cameron Puertas, donc au micro de Manuel Jousse pour le petit jeu en un seul mot. Merci Alexandre Boucou, toujours compliqué hein, sur un plateau. Vous êtes arbitre, notre consultant arbitrage, ancien arbitre. Mais je vais quand même vous faire participer au débriefing des matchs. En un seul mot, Complètement Foot, ce match pour vous c'était?
Maurice.
Pourquoi?
Parce que je crois que c'est la phase du 0-1 et qui change pas mal le cours du match. Donc c'est clair que c'est une phase inhabituelle. Hein. Parlons-en tout de suite. Je crois qu'en matière d'arbitrage et donc le téléphone a chauffé sur le coup puisque
sans blague.
Hein, les commentateurs, même certains journalistes du Nord m'ont interrogé et j'étais. C'est vrai que c'est toujours surprenant quand vous voyez ce genre de situation en direct. Maintenant. Que prévoit le règlement? Il y a un article du règlement qui traite de ce genre de situation et qui dit qu'un coup franc indirect sera octroyé si un joueur empêche le gardien de lâcher le ballon ou essaie de jouer le ballon lorsque le gardien est occupé de le lâcher. En l'occurrence, à la lecture du règlement, on trouve aucune infraction sur ce qui vient de se passer avec Maurice, étant donné que voilà, il dira peut-être qu'il voulait relancer rapidement, etc.
On va l'écouter.
Mais il doit aussi veiller à son environnement immédiat. Il n'y a pas de règle de distance minimale à respecter entre l'attaquant et le gardien. Il faut juste laisser le gardien librement lâcher le ballon pour le dégager. En l'occurrence, l'attaquant brugeois n'a à aucun moment empêché Anthony Morris de lâcher le ballon. Et donc, on doit accepter ce but.
Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport. Je vais faire réagir Clémentin. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Anthony Maurice à l'issue de ce match. Une interview officielle Pro League. On l'écoute.
Il y en a des milliers comme ça de dégagements qui sont annulés chaque semaine. Moi ici, je dégage parce que je vois Cameron Puertas partir dans la profondeur. Il laisse traîner le pied. Donc voilà, je lui demande un petit peu pourquoi il annule pas le jeu, parce que le but, parce que ça se fait régulièrement. D'abord, il me sort qu'il me faut 2 mètres. Mais j'ai dit que 2 mètres entre moi et le joueur, ils n'y étaient pas. Donc il doit l'annuler, il valide le but et à la fin du match, je lui demande et il me dit que c'est à l'interprétation et que pour lui, il jugeait que l'espace était suffisant entre moi et le joueur pour que je la mette. Je pense que, voilà, après, je sais pas, je l'ai pas revu, je sais pas, c'est une de l'interprétation, voilà, c'est comme ça.
Oui, le point du règlement dans la loi 12 parle du lâcher du ballon. C'est ça qui entre en ligne de compte et pas une question de mètre ou d'obstruction. L'arbitre lui parle de 2 mètres, mais les 2 mètres, ça n'a rien à voir.
Ah ben oui, ben c'est ça. On a bien vu qu'il était perdu, il ne savait pas quoi faire. Donc je pense qu'il a tout remis sur le VAR ici, à partir du moment où le VAR n'intervient pas. Mais là, on voit clairement que le ballon est lâché. Et je pense que si à un moment donné, ce sont des gens aussi qui sentent le jeu, ils voient très bien que Cameron Puertas part dans la profondeur. Quand tu connais mon jeu, tu sais que j'aime ces relances rapides, etc. Donc voilà, ici, je ne sais pas pourquoi il a pas annulé aujourd'hui. Il faudra lui demander la prochaine fois qu'est-ce qu'il va faire. Ben, on verra ça avec attention.
Anthony Maurice, donc l'interview après ce match sur cette phase précise. Il y a 2-3 choses. Je voudrais faire réagir Alexandre Boucaud, évidemment, dans un instant, pour rappeler la loi du jeu, comme vous venez de le faire. Clément, votre avis sur cette phase ?
Bah non, mais je vais me fier à ce qu'a dit Alex et je suis plutôt d'accord avec lui. Je pense que il y a déjà effectivement d'une part pour Maurice la gestion de son environnement direct sur le dégagement et je ne vois pas de gêne particulière du joueur brugeois. Je trouve qu'il est à probablement une distance minimale de 2 mètres. J'ai le sentiment. Ce n'est que mon sentiment. Après. Si c'est un ressenti direct de l'arbitre terrain, il a jugé que c'était pas une faute ou en tout cas une gêne au niveau de Maurice. Donc pour moi, le but est logiquement valable. Il n'a pas totalement tort non plus, hein, Maurice, dans le fait qu'il nous explique que c'est pas la première fois qu'il y a des situations de ce genre et que l'arbitre siffle faute. Mais il faut aussi revoir aussi ces fautes-là. Est-ce qu'il y avait gêne concrète, en tout cas sur cette situation-là, ce n'est pas le cas. Et pour moi, le but est justement validé et valable.
Anthony Maurice nous parle de distance. Clément reparle de ces fameux 2 mètres. Rappelez-nous, Alex, ça a une importance, ces 2 mètres. Il faut y avoir cet écart ?
Aucune. Il n'y a qu'un endroit dans les lois du jeu où on parle d'une distance de 2 mètres entre deux personnes. Et il n'y a que Christian Burgess qui pourrait l'invoquer, puisque c'est sur les rentrées en touche. Donc.
Voilà, évidemment, un peu d'humour aussi de notre arbitre. Il n'y a pas de raison.
Mais en l'état, sur cette situation-ci, il n'y a aucune distance qui est mentionnée dans le règlement.
Avez-vous eu l'impression que M. Vergoot se repose sur son VAR, prend la décision Anthony Maurice nous dit, il ne sait pas ce qu'il fait, il réfléchit lui-même, il ne sait pas trop et il attend. Est-ce que vous avez eu cette impression-là maintenant face à votre télévision ? On n'est pas sur le terrain, on n'a pas le même ressenti. Je réexplique le contexte. On est ici à côté de notre studio radio, vous êtes face à la télévision. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il ne dominait pas les événements et qu'il s'est appuyé sur le VAR en se disant « bon, on va voir ce qui se passe, il n'y a pas de raison d'annuler ce but ».
Je pense qu'au moment où je l'ai vu, j'ai dû être plus ou moins dans le même état que lui. Ça veut dire troublé, parce que c'est quelque chose de totalement inhabituel. Et là, tu te dis « ouf, qu'est-ce que... » À un moment, tu te dis « qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis, sans doute que très très vite, il se dit « bah oui, finalement, il n'y a rien qui va mal ». Donc, il a validé, parce qu'il doit prendre une décision. Donc, il a validé. Et puis, ensuite, il y a check du VAR. Et le VAR arrive à la même conclusion de se dire, bah non, au terme du règlement, j'ai pas d'infraction. Donc, je le valide.
Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport, Clément Amon, notre consultant complètement foot. On va continuer. Déjà, les informations de 22h dans un instant. On va continuer le débriefing donc de ce match Union Saint-Gilloise Club de Bruges, parce qu'il s'est passé d'autres choses aussi sur le terrain évoqué. Donc, et surtout, pas qu'au niveau arbitrage, je voulais dire, et puis surtout donc cette victoire brugeoise qui resserre après celle du Racing Genk contre le Sporting Anderlecht, qui resserre donc les 4 équipes en 4 points. 38 points pour Anderlecht, 36 pour le club de Bruges, 35 pour l'Union, 34 pour le Racing Genk. On continue le débriefing aussi de ces Champions Playoffs donc dans un instant avec Peter-Yann Kalkoun, journaliste de Newsblatt, qui va nous rejoindre. C'est complètement foot en direct ce dimanche sur Vivacité. Dans un instant, les infos de 22h. À tout de suite.
Pour ne manquer aucun podcast RTBF Sport, abonnez-vous. Nos podcasts sont disponibles sur rtbf.be/ovio ou via votre application podcast.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.